La vie du bon côté en podcast avec Sylvie Honoré.
Bonjour à tous. Présentation d'un livre aujourd'hui qui s'intitule « Quand les comportements difficiles me déstabilisent » et « Les troubles de l'attachement ». Un témoignage et un partage d'expériences pour comprendre et intervenir avec bienveillance auprès des enfants, bien sûr. C'est Paul Lurquin qui est l'auteur de ce livre dans la collection « Gestion de classe efficace » qui apporte aux enseignants et aux élèves des savoirs et savoir-faire liés à la qualité de l'encadrement de la vie en classe. Paul Lurquin dit « Aider ses enfants en souffrance me passionne. J'ai été instituteur pendant 15 années dans notre école d'enseignement spécialisée de type 3 en Belgique, école dont je suis actuellement le directeur. J'espère dans mon chemin de résilience aider ses enfants particuliers et aussi protéger les intervenants de leurs agressions verbales et physiques, parfois quotidiennes. » C'est un livre qui s'adresse aux personnel, enseignant bien sûr, à tous ceux qui sont aux prises avec les enfants et dont nous, les parents, nous avons beaucoup à apprendre de ce livre qu'on va parcourir ensemble durant les minutes qui vont suivre.
Prendre la vie du bon côté, c'est mieux comprendre les comportements difficiles et y faire face avec bienveillance.
Bonjour Paul Lurquin.
Bonjour Sylvie.
Mieux comprendre les comportements difficiles, en effet. On parle bien de comportements difficiles et pas d'enfants difficiles. C'est là toute la nuance. Et on va y revenir dans une seconde. Mais là, je lis un petit peu l'avant-propos qui dit, qui nous apprend, et c'est vous qui parlez, lorsque j'avais une classe facile qui progressait normalement, qui apprenait aisément, je n'avais pas le sentiment d'être utile. J'avais le sentiment que les élèves pouvaient apprendre sans moi. Ces enfants différents me font grandir chaque jour. J'ai de la chance. Alors ça, c'est vraiment... Voilà les quelques premières lignes que j'ai lues avant de m'imprégner de l'ensemble. Mais c'est vraiment le fil conducteur. On sent un homme passionné derrière. On sent un homme qui veut avancer avec les enfants. Et c'est surtout ça, Paul. Faire face à ses enfants, c'est aussi faire face à nous-mêmes. Je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre de soi.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent résonner en soi par rapport à cela. Et je crois que... C'est pas innocent que je sois là à écrire ce deuxième livre, à partager cette expérience. C'est mon chemin de résilience.
C'est sûr.
Et je crois que la majorité, sans généraliser, hein, la majorité des personnes qui aiment s'occuper des enfants, qui expriment des comportements difficiles, sont peut-être, mais moi j'en suis presque convaincu, mais je peux me tromper, qu'ils sont dans un chemin de réparation, de résilience par rapport à certaines difficultés, peut-être qu'ils auraient eux-mêmes vécu.
Vous parlez de vous, bien entendu, par rapport à certaines maladresses parentales qui vous ont été adressées, des violences verbales aussi, votre parcours scolaire qui a été chaotique. Donc, je dois dire que quand on lit en effet le début du livre, on se dit que vous êtes, comme beaucoup de personnes, Paul, et que vous venez de le dire, un enfant qui a grandi avec certaines difficultés, qui aujourd'hui veut aider des parents en difficulté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents en difficulté, de parents en souffrance, vous le voyez, vous évidemment, avec les parents que vous fréquentez. On parle bien de comportements difficiles, pas d'enfants difficiles, c'est toute la nuance. Et c'est extrêmement aussi important de se dire que chaque parent a un fonctionnement qui lui est propre et réagit avec ce qu'il a aussi eu de son enfance. Donc finalement, c'est une chaîne sans fin, quoi, tout ce qui nous arrive.
Oui, et c'est là qu'on peut intervenir, dans la réflexion, dans l'action, où on peut justement essayer de s'arrêter face à la situation difficile et de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'enfant exprime des comportements difficiles? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis dans une certaine difficulté parce que je suis tout le temps dans la réaction? Et le partage de cette expérience, riche de 30 ans maintenant, veut justement amener les personnes à se détacher de la situation pour essayer de comprendre. Et j'insiste, quand on comprend, je crois qu'on est plus à même de rester dans l'intervention et de sortir de ses affects de parents. Parce que quand un parent a un enfant qui a des comportements difficiles, qui exprime des comportements difficiles, et qu'il le met dans une école où l'enseignant n'a pas non plus cette formation qui, pour moi, enfin, je le crie haut et fort, je l'ai mis dans le livre, c'est ce partage d'expérience, et ce n'est pas de la prétention, c'est de l'observation, ce partage d'expérience devrait faire partie de la formation de base de tout intervenant pour enfants, que l'on soit éducateur, que l'on soit enseignant, ce qui comblerait beaucoup de carences, de manques, de dépression, d'arrêt de travail pour les jeunes enseignants qui sont confrontés à des difficultés après 3 ans. C'est vraiment quelque chose que je sens de... Et ce n'est pas compliqué, hein, il suffit de le mettre au programme et de mettre ça au cours, et d'en parler et de partager des expériences, mais... Voilà, ça j'insiste vraiment là-dessus parce que je crois que comme ma pensée est forte dans l'anticipation, c'est difficile de gérer des enfants qui expriment des comportements difficiles. Mais si on est préparé, si on est déjà un peu plus armé à, on sera plus à même de les aider et de mieux vivre la situation en tant qu'enseignant ou en tant que parent, naturellement.
Tout à fait. On va avancer en tout cas. Hein. On va munir après ce constat de se dire que nous sommes démunis, même nous les parents, bien sûr, et les professionnels surtout, puisqu'on leur demande beaucoup aujourd'hui. Mais on va munir et prévenir des adultes face à des comportements difficiles. On va, dans quelques secondes, définir ce qu'est un comportement difficile. Ça, c'est aussi une grosse question. Et vous faites évidemment une grosse différence entre comportement difficile et troubles du comportement, là c'est plus pathologique, vous en parlez dans votre livre, on peut faire les distinctions. Et puis surtout la question essentielle c'est aussi, est-ce qu'il y a plus de comportements difficiles aujourd'hui qu'avant et qu'est-ce qui fait que, ça c'est vraiment les réponses que j'attends d'ici quelques secondes.
Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.
Il n'y a pas d'enfants difficiles, il y a des comportements difficiles. Extrait du livre de Paul Leurquin qui s'intitule « Quand les comportements difficiles me déstabilisent » aux éditions Adzeo. C'est en effet des vérités, je pense, qu'il est important de souligner. C'est pour ça que j'ai encadré pas mal de choses. Les enfants sont des miroirs, les miroirs des adultes qu'ils ont en face d'eux. Ça fait réfléchir. Nous sommes déstabilisés par les comportements difficiles. C'est sûr, l'enfant est en réaction. L'enfant exprime une angoisse, une frustration, l'enfant veut faire passer un message par son comportement difficile et l'adulte réagit en effet par un autre message en fonction de son vécu, en fonction de son stress du moment. Et c'est une chaîne sans fin bien sûr. L'enfant, et ça Paul, c'est important de le dire, quand il a un comportement difficile, bon déjà qu'est-ce qu'on appelle comportement difficile? C'est pas tout le temps quand l'enfant fait une crise de colère par terre, ça c'est vraiment un cliché, mais c'est pas que ça le comportement difficile.
Le comportement difficile reste quelque chose qu'il est possible de changer, d'améliorer, d'atténuer en appliquant des conseils, en appliquant des règles, en sanctionnant s'il le faut. L'enfant pourrait comprendre que voilà, il a essayé, on renforce le sentiment de sécurité de l'enfant, il a essayé, on lui dit que ce n'est pas bien, il pourra peut-être essayer une deuxième fois.
Mais un comportement difficile, je voudrais des exemples, c'est vraiment l'enfant...
Comportement difficile, c'est l'enfant en classe qui à certains moments s'assiérait mal sur sa chaise, l'enfant qui à la maison à certains moments, bon, on lui demande de ranger sa chambre, il ne veut pas ranger sa chambre, il embête tout régulièrement son frère, sa sœur, pourrait avoir à certains moments un mot plus haut qu'un autre, mais bon, ce n'est pas répété, c'est ponctuel, ce n'est pas continu dans le temps, ce sont des comportements qui sont... je dirais même normaux chez le développement d'un enfant.
Ils sont interpellants, j'allais dire aussi, parce que bon, tout ce que vous dites là, finalement, je vais dire, j'ai les mêmes à la maison. Hein, sont des enfants qui, en effet, cherchent toujours à essayer d'aller de plus en plus loin. Hein, et c'est là que vous dites, il faut mettre des cadres, il faut faire des lois aussi, vous dites, dans les écoles. Alors, c'est vrai que les comportements difficiles, on a l'impression qu'aujourd'hui, et c'est peut-être les grands-parents qui disent ça plus souvent, hein, avant, on n'aurait jamais osé avoir ce comportement-là. Avant, on n'aurait jamais laissé faire ça. Qu'est-ce que vous dites, vous qui avez tellement l'habitude, face à ce genre de remarques, Paul?
Mais avant, c'était avant. Hein, avant, c'était avant. Si je reviens 30 ans en arrière, que je me retrouve à l'école avec des instituteurs qui étaient très, très, très sévères, avec voire parfois certaines maltraitances, on n'est plus là-dedans. La société d'aujourd'hui a beaucoup évolué, pas toujours en bien, malheureusement. Le rôle de l'enseignant, le respect de l'enseignant, le respect des parents, et si on va dans la société, le respect de la police, si on regarde déjà ça, je veux dire, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de cadre, les enfants ne se sentent plus sécurisés.
Et vous pensez que là, c'est le cadre, c'est les parents qui doivent les mettre dès le
départ. Les parents,
départ,
l'école, oui, au départ, les parents certainement. Hein, oui, vous avez à l'heure d'aujourd'hui, dans certaines écoles, des enfants qui arrivent à l'âge de 4 ans ou de 3 ans, hein, bien coiffés, petite veste, premier jour de la rentrée, hein, on vient de le vivre ici. L'enseignante qui ne connaît pas l'enfant lui parle gentiment, lui demande de faire quelque chose. Hein, veux-tu bien t'asseoir, s'il te plaît? L'enfant pourrait regarder l'institutrice et lui dire c'est à moi que tu parles ou c'est à moi que vous parlez. Et pour certains enseignants, ils sont les premières personnes qui vont commencer à dire non à leur enfant. Et c'est là qu'il faut tenir bon dans le cadre scolaire, c'est bien conscientiser que. Être un mur bienveillant, naturellement, je dis toujours une main de fer dans un gant de velours, mais il faut être bienveillant parce que certaines familles, à l'heure d'aujourd'hui, démunies, laxistes, prises par leurs occupations, font qu'à certains moments, ils n'ont jamais dit non à leur enfant. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très, très problématique.
Mmh. Vous revenez sur des ouvrages parce que vous avez lu pas mal sur le sujet. J'ai beaucoup aimé un livre qui vous a éclairé sur votre façon de vivre au quotidien, votre mission, ici-bas, on va dire, des auteurs d'un ouvrage qui souligne les quatre piliers d'excès qui nuisent à l'éducation. Trop de choix, trop d'affaires, trop d'informations, trop de rapidité. C'est un peu... ça, enfin, je veux dire, dans
j'ai
ces
adoré.
Quatre trop,
voilà,
bah oui, dans ces quatre trop, on se reconnaît évidemment, on travaille
j'ai
trop,
adoré ce
on est trop occupés, nous les adultes, on leur laisse trop de choix, liberté de trop de choix par facilité, bien entendu. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi, et ça vous le dites, quand vous voyez arriver les enfants et toutes vos observations de terrain vous ont ouvert les yeux sur les carences à l'origine des comportements difficiles.
Tout à fait.
Donc, c'est ce que vous citez là maintenant, on l'a bien compris. Vous passez en revue tous les besoins de l'enfant, avec la pyramide de Maslow, en parlant bien entendu du besoin relationnel, le lien, le lien d'attachement, la relation qui est le premier socle pour vous et qui est malmené. Ça, on est d'accord.
Ben, je me suis permis de... D'autres personnes disent la même chose que moi. Hein. Bon, là, je n'ai rien inventé, mais je trouve que sur la pyramide de Maslow, oui, je me suis permis d'ajouter un étage avant les besoins physiologiques et le besoin de la relation, le besoin de l'attachement. Je crois que, comme vous disiez, comme tu disais, Sylvie, le fait que nous vivons trop vite, que nous passons peu de temps avec nos progénitures... ça commence aussi, indépendamment de l'origine du trouble de l'attachement au niveau relationnel, mère-enfant ou autre, dans la société dans laquelle nous sommes, nous pourrons et nous commençons déjà à observer des troubles de l'attachement chez les adolescents, chez les grands-enfants, où il y a très peu de communication, ou une communication qui reste une communication, que moi j'appelle ça, avec les rectangles, quand je parle de
c'est
rectangles.
Les réseaux sociaux, tout ce qui est Internet.
Tout ce qui est Internet, étonnamment maintenant les enfants ne regardent plus la télévision, puisqu'ils sont tout le temps connectés. Mais ça commence vraiment à créer des troubles de l'attachement, et dans l'observation de la vie de tous les jours, et je peux me mettre aussi là-dedans, parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est de l'observation.
Ouais, c'est ça.
Lorsque moi je travaille énormément, que je donne mes formations, que je vais à gauche, à droite, je suis très peu aussi avec mes enfants, j'essaye de passer des bons moments avec eux. Mais pris par notre vie rapide à l'heure d'aujourd'hui où nous voulons, combler le manque de présence auprès de nos enfants, le côté négatif de cela, c'est qu'à certains moments, on ne veut plus les frustrer. On les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. On les suroccupe. Lundi danse, mardi tennis, mercredi... Et les parents, on sait très bien qu'on en a nous-mêmes assez... Quoique pendant ce qu'on vient de vivre ici, pendant le Covid, je trouvais justement intéressant de faire ces activités.
Ça, c'est vrai.
C'était intéressant. On a vu le côté un peu
absolument.
À l'envers. On dit, c'est chouette, il va pouvoir aller au tennis. C'est chouette, il va pouvoir aller au foot.
Et je vais pouvoir faire un truc pour moi.
Pour moi, et il sera moins sur ses rectangles aussi. Donc
absolument.
Il pourra aussi faire toute autre chose. Donc,
les fameux rectangles. Vous savez quoi, on va téléphoner à quelques personnes pour prendre
avec
part
plaisir.
À la conversation entre nous deux, faire la différence évidemment entre comportement difficile et trouble du comportement, et puis surtout votre livre apporte des solutions, comment réagir face aux angoisses de l'enfant qui exprime des comportements difficiles, qu'on soit encore une fois dans le monde de l'enseignement ou parent, comment intervenir, comment s'intéresser aussi au vécu de l'enfant, ça c'est extrêmement important, comment faire équipe, comment déléguer, comment se rappeler aussi les mots qui nous ont blessés dans notre enfance et ne pas les prononcer, ça c'est plus compliqué. Avec Paul Lurquin aujourd'hui, vous comprenez que nous avons face à nous un professionnel bien entendu qui a observé beaucoup et qui a répandu la bonne parole, et c'est pas fini. Quand les comportements difficiles me déstabilisent, c'est son livre qu'on présente aujourd'hui.
Prendre la vie du bon côté, c'est mieux comprendre les comportements difficiles et y faire face avec bienveillance.
Paul Lurquin, notre invité aujourd'hui. On parle des comportements difficiles et je réinsiste, Paul, parce que je pense que vous le dites toutes les 5-6 pages, on parle bien de comportements, pas d'enfants difficiles, c'est toute la nuance. Les fameux « tu n'es pas gentil, tu es nul », voilà, c'est vraiment c'est ce que tu viens de faire, Paul, c'est exactement ça. pour les parents à avoir bien à l'esprit de dire ce que tu viens de faire, ce que tu...
Cibler le comportement et pas l'enfant.
Voilà, le comportement et pas l'enfant, parce qu'on a tendance... Encore une fois, c'est ce qu'on a entendu nous-mêmes.
Oui, tout à fait.
Hein, étant petit, parce que voilà, les parents ne leur ont jamais fait la différence non plus.
Et l'analyse et l'observation étaient qu'en fait, les enfants ont déjà très peu d'estime d'eux-mêmes.
C'est
et
ça,
quand
voilà.
On essaye de... Enfin, quand on réagit et qu'on lui dit qu'on vise l'enfant et pas le comportement... Perrine Bigot, orthopédagogue, qui a fait aimablement la préface, a souligné cela aussi avec des petites phrases et des petits exemples. Il est clair aussi que la valorisation et le fait de parler comme ça n'est pas dans notre
n'est pas habituel, culture, hein, c'est non, pas, dans notre c'est, culture.
C'est pas,
hein.
C'est pas culturel.
Mais vous le dites, hein, faut vraiment changer culturellement parlant
et
notre façon
faut,
de faire. Ouais.
Il faut pouvoir vraiment cibler le comportement et dire à un enfant, écoute, ce que tu viens de faire, ben, ça ne va pas, mais moi je t'aime bien, moi je n'ai pas de problème avec toi. Mais ce que tu viens de faire est dérangeant, et si tu continues, ben, il y aura peut-être une sanction, mais j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Et aussi, penser aussi certainement, une chose qui pour moi est une bonne piste également, c'est de vérifier simplement si l'enfant sait ce qu'il peut faire d'autre, parce que nous adultes, nous imaginons et nous espérons qu'il fasse autre chose, mais cette simple question c'est, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre à la place de faire cela?
Ouais,
et on
ça.
Serait étonné à certains moments, et j'ai été plusieurs fois étonné de savoir que l'enfant ne le savait pas. Et je crois qu'il est de notre rôle de parent, d'enseignant, d'éducateur, de dire, ben voilà, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela, et la prochaine fois, ben, on pourrait vérifier ensemble si ça a fonctionné, si tu as eu difficile à le faire. Et
c'est là que vous dites, il faut essayer de prévenir le comportement difficile, en tout cas dès qu'il y a plusieurs symptômes, mais il faut aussi avoir un feedback. Et, là, c'est là le plus important, c'est ce que vous venez de dire.
Vérifier.
C'est qu'après, quand le calme est revenu, on va dire, de l'un et l'autre, de l'adulte et l'enfant, quel qu'il soit, parent ou enseignant, d'avoir ce renforcement positif et venir dire qu'est-ce qui aurait pu se
vérifier, renforcer positivement.
Renforcer.
Ben, en général, quand on peut être confronté à... tu disais comportement difficile, mais si on est dans le trouble, le comportement difficile, il est là tout le temps, quoi. Et ça, c'est ça qui nous...
Ça, c'est pathologique. Hein, donc
c'est pathologique. Hein,
le trouble.
Pour venir au trouble,
il y a un diagnostic.
Il faut un diagnostic. Ouais. Il y a un trouble du comportement. Le diagnostic est posé par un professionnel. Donc, je rappelle bien aux enseignants, aux éducateurs, d'éviter cette forme de stigmatisation et de déjà dire à certains parents qu'ils pourraient aller dans l'enseignement spécialisé ou qu'il aurait un trouble. Orientons vers des spécialistes, et pour ce faire, et pour rester dans une communication qui serait non jugeante, non violente, habituons-nous, enseignants, intervenants, à décrire les comportements de l'enfant qui nous dérange par des faits observables, sans jamais utiliser de qualificatif. Et rappelez-vous, si vous avez eu un enfant qui posait des problèmes à l'école, remettez-vous à la place de votre place de parent lorsque l'enseignant pouvait vous dire « Votre fils est un paresseux, il ne fout rien en classe. » Voilà, ben, tout de suite, moi, en tant que parent, je me mets dans une position de défense. Et je refuse toute communication. Et qu'est-ce que je pense? Je ne dirai pas le nom, mais quelle est cette personne, cette institutrice, cet enseignant pour me parler de la sorte.
Ouais, donc, on a bien compris, et il y a beaucoup d'exemples en effet de la sorte aussi dans votre livre. Alors là, je vais le dire haut et fort, et même le mettre dans la tête en tant que maman. Quand vous donnez un peu les caractéristiques des comportements difficiles, vous dites les recadrages ne changent rien, l'enfant ne le fait pas exprès, il répond à ses propres angoisses, il se défend, ça peut rendre évidemment fou l'entourage. Et on va de suite prendre le témoignage de Laurence. Laurence Plainevaux, qui est directrice d'une école libre primaire à Montréal-Mais. Nous sommes dans la région de Floraine. Laurence, bonjour.
Oui, bonjour. C'est une école fondamentale, hein, maternelle et primaire.
D'accord, une école fondamentale.
Voilà.
Laurence, bon, par rapport à ce que Paul vient de dire, par rapport aussi à votre mission en tant que directrice, vous pensez que ce livre doit être mis entre les mains de tous les professionnels de l'enseignement, je pense que les parents aussi, qu'il permet de comprendre des comportements souvent ingérables. Je suppose que vous avez été à plusieurs reprises démunie, vous-même, Laurence.
Bien sûr. À la fois en tant qu'enseignante, quand j'étais enseignante, ben j'ai aussi dans ma classe des enfants qui avaient des comportements difficiles, voire des troubles, et parfois des troubles de l'attachement. Mais en tant que directrice, ben oui, bien sûr, c'est pas parce qu'on est dans un enseignement ordinaire qu'on n'est pas confronté à ce genre d'enfants. Et donc vraiment, ce livre est une mine d'or parce qu'il relate des situations vécues. Il met surtout l'enseignant en garde mm-hmm. contre des réactions qui pourraient être contre-productives. Parfois, ça peut être des réactions verbales violentes. Forcément, quand on est en situation de stress et de colère, bien parfois on est tellement à bout mm-hmm. qu'on en perd les moyens et qu'on n'arrive pas toujours à gérer. Et donc, le livre de Paul nous explique vraiment comment gérer au mieux justement ces situations de stress. Et je pense que déjà pour un enseignant, le fait de comprendre qui est cet enfant qu'on a en face de nous, un enfant qui a des souffrances, qu'il faut pouvoir écouter, mais surtout comprendre, eh bien, je pense que c'est déjà un grand pas. On n'a peut-être pas la solution, mais en tout cas, on comprend pourquoi il est ainsi et on sait que, comme vous l'avez dit, s'il agit ainsi, ce n'est pas pour nous embêter, il ne le fait pas exprès.
J'aime beaucoup, et Paul peut intervenir, quand Paul dit... En général, on a tendance à être dans la réaction, c'est normal en tant qu'adulte parce que le comportement d'enfant vient nourrir aussi des souffrances intérieures. J'aime bien Paul quand vous dites ne pas sanctionner tout de suite. Vous prenez le cas d'une enfant qui peut avoir mille lignes à faire toute sa vie. Non, c'est dire tu seras sanctionné. J'ai quand même réfléchir à la sanction.
Mais j'ai quand même envie de rappeler qu'avant d'être ce que je suis maintenant, j'ai aussi été enseignant.
Oui, oui.
Et que tout ça, je l'ai fait. Hein. Je veux dire, voilà, hein, je suis pas autrement qu'une autre personne. Oui, la réaction, la seule façon de ne pas être directement dans la réaction, c'est de se dire, voilà, je me pose, quoi. Je prends du temps.
Oui, c'est important.
Et l'exemple que tu donnais ici, c'est vraiment un exemple qui fonctionne très bien avec un enfant qui serait dans la toute-puissance, qui a un public et qui alimente ce public.
Genre, tu auras 10 lignes, je m'en fous, t'en auras 100, je m'en fous, t'en auras 300, je m'en fous, 1000, ça sert à rien. En plus, l'enfant sait que l'enseignant ne va pas lui faire ses 1000 lignes. Donc,
il va se discréditer au niveau de son autorité.
C'est un bel exemple.
Et là, c'est perdu. C'est vraiment se dire, l'enfant qui poserait problème et qui se confronte à votre autorité devant le groupe dans la toute-puissance, c'est de lui dire, je ne suis pas d'accord avec ton comportement, tu auras une sanction. Vous ne donnez pas la sanction, vous la donnez après naturellement, pas
après
trop
réflexion.
Longtemps. Et idéalement, s'il est réellement dans la toute-puissance, c'est de le prendre après en relation duelle. Et il pourra sortir de son rôle de roi, de chef de meute, de loup. Et comme le public est parti, vous pourrez peut-être, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein, voilà, c'est le jour où j'ai des recettes miracles, je m'installe dans un château et on vient me visiter en quart. C'est pas le cas. Et là, vous pourrez certainement le conscientiser, le responsabiliser, voire le sanctionner, mais hors public. Et le fait d'avoir postposé la sanction évite la surenchère. Et après, ça devient un combat de force. Hein,
mais c'est très bien ce que vous dites, Paul. Même encore une fois, en tant que parent. Qui veut en effet améliorer ce suivi par rapport à un comportement difficile d'un enfant. Vous êtes d'accord avec ça, Laurence ?
Oui, bien sûr. Et moi, je rebondis quand Paul dit qu'il n'y a pas de recette toute faite. Effectivement, je pense que ce serait trop facile. Mais en tout cas, il y a des exemples, il y a des expériences sur lesquelles on peut s'appuyer et surtout ne jamais se décourager.
Oui.
Je pense qu'il faut être créatif et qu'il faut oser des pratiques qui vont fonctionner ou pas. Mais au moins, on est professionnel, on essaye, quoi.
On est d'accord. La toute-puissance, c'est l'une, en effet, des réactions, enfin en tout cas de profil, l'un des profils de l'enfant. Hein. Comme vous dites, l'enfant met en place toute une série de mécanismes avec des défenses maniaques. Et c'est là que vous parlez de la toute-puissance, hein. Paul. Merci, Laurence, pour votre intervention. C'est important,
merci,
je pense, d'avoir le suivi de professionnels comme vous qui alimentaient un peu ce que je pense aussi, c'est que c'est un livre que tous les professionnels de l'enseignement devraient lire et qui permet vraiment de comprendre les comportements souvent ingérables en situation de classe. On n'a pas fini de le parcourir, ce livre.
Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.
Quand des comportements difficiles me déstabilisent et des troubles de l'attachement, un témoignage, un partage d'expérience pour comprendre et intervenir avec bienveillance, Paul Lerquin est notre invité aujourd'hui dans la collection Gestion de classe efficace aux éditions Adzeo. Voilà, si vous voulez vous procurer ce livre, je pense qu'il est important. L'écriture de cet ouvrage, dit Paul, correspond à ma volonté d'inciter les parents que nous sommes à être attentifs au marasme sociétal qui pourrait survenir. Comme les comportements difficiles chez les enfants s'accroissent, je suis très souvent interpellée par des parents et des professionnels de l'éducation démunis face à ce phénomène. Alors c'est vrai que, on a parlé il y a quelques instants justement avec Laurence de ce sentiment de toute puissance, hein, parfois, Paul, que l'enfant a. Et il n'y a pas que l'enfant qui l'a. Dans le livre, et j'ai bien lu, votre épouse vous indique.
Ah oui, mais je suis
mais
aussi parfois dans la toute puissance.
Mais pourquoi tu pousses le champignon ? Voilà, le sentiment. Non, mais c'est important parce que quand on lit ça, on se dit, mais évidemment qu'on a une partie de nous qui a en besoin de ce sentiment de toute puissance. Vous dites, c'est le fait d'accélérer alors qu'il y a quelqu'un qui veut doubler.
Ben oui.
Parce que non, tu ne passeras pas, c'est moi qui suis devant.
Et puis on connaît la suite.
Hein. Et vous voyez, mais vous-même, ça vous arrive.
Ben donc, oui, ça va mieux.
On y est. On y est.
Quand je viens de changer de voiture. Et...
Ce sont des choses qui se travaillent. Ce sont des choses qui se travaillent. Bon, alors c'est vrai que c'est important de parler des comportements des enfants. Vous dites la toute-puissance, l'enfant roi. Bon, celui-là, on le connaît. Mais c'est aussi le déni, l'impulsivité, l'agitation désordonnée. Un enfant qui est tout le temps dans l'agitation. La fabulation. Un enfant qui va reprendre ce que quelqu'un a dit, un copain de classe.
S'approprier son histoire.
Oui, c'est fou ça.
Pour se rendre sa vie plus agréable parce que sa vie est triste.
Absolument. La projection aussi. Ce sont les autres qui le persécutent ou le terrain qui est trop petit. Il y a toujours une excuse hein, à l'enfant qui... C'est ça, c'est fou. C'est aussi des comportements qu'on observe. L'enfant accaparant. Ça, ce sont des comportements difficiles rencontrés, je pense, dans votre expérience professionnelle. L'enfant roi, parfois avec des parents qui mettent aussi des limites. Donc ça aussi, on a parfois l'impression que ce sont des parents qui laissent tout faire, complètement tout faire.
Ne stigmatisons pas toujours les familles. Ne stigmatisons pas les enfants. Mettez-nous à la place des personnes. Nous avons beaucoup de familles qui sont démunies, des familles qui n'ont pas la capacité de pouvoir dire non. Qui sont très fusionnels aussi à certains moments. Et il faut plutôt les soutenir, les aider, les comprendre que les juger.
Et il y a une vraie psychologie dans votre école, hein, parce que vous dites, il y a aussi ce que les parents peuvent entendre, des choses à ne pas leur dire. Attention, ça vous venez de le dire, de ne pas mettre des étiquettes aussi, je pense que c'est important. Et puis il y a toujours aussi des personnes qui disent, mais à la maison tout va bien, hein, ou à l'école, ou à l'école tout va bien. Parfois on a l'impression en effet qu'il y a deux enfants en un, qui ont deux comportements différents.
Les parents peuvent être aussi dans le déni, comme dans la toute-puissance. C'est plus facile d'être dans le déni, c'est plus facile, si je prends un rôle de parent par rapport à une école, comme tu parlais de la projection, c'est pas moi, comme tout va bien à la maison, ce n'est pas moi qui suis dans la difficulté.
C'est pas le problème,
C'est à l'école. Vous êtes prof, vous avez 6 mois de vacances, occupez-vous de mon gosse, et voilà, quoi. Et quand un enseignant aussi pourrait, comme disait Laurence tout à l'heure... réagir de façon un peu disproportionnée, c'est aussi parfois une forme de projection. Donc on est aussi, nous tous, dans ce mécanisme, dans ces mécanismes de défense, à savoir que quand un enseignant dit à un enfant un nom d'oiseau ou l'humilierait à un certain moment, d'une façon ou d'une autre, c'est une façon de dire « je ne suis pas un mauvais enseignant ». Moi, je suis un bon enseignant, c'est l'élève en face qui a des difficultés et qui pourrait... qui est bête et qui n'y arrivera pas. C'est plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre que d'accepter ses propres difficultés. Et pour différencier encore par rapport aux troubles que tu disais tout à l'heure, chez nous, ce n'est pas massif. Nous avons la verbalisation, nous savons exprimer nos difficultés, nous savons dire qu'à certains moments, ça ne va pas bien. Je rappelle que...
Et encore pas tout le monde, pas tous les adultes.
Nous avons le pouvoir.
Ouais, à la limite. Hein, on devrait avoir cette capacité.
Nous avons le pouvoir de le faire. Certaines personnes... ont des difficultés, mais on peut le faire. Tandis que l'enfant qui est dans le trouble du comportement, lui, n'arrive pas à le faire, n'arrive pas à l'exprimer verbalement, et il nous le montre par des comportements difficiles. Donc je dis même que si l'enfant savait nous dire à certains moments qu'il ne va pas bien, il n'exprimerait pas de comportement difficile.
Mais oui, c'est ça. C'est ça qui est important à dire. Et justement, j'ai envie aussi de mettre dans la conversation Lorraine Beckers, institutrice spécialisée à l'école Les Écureuils à Teux. C'est une école spécialisée, hein. Lorraine.
Oui, c'est
bien. Bonjour à vous. Vous avez contacté vous-même, Paul, via Facebook pour avoir le livre parce que vous sentiez que c'était un livre dont il fallait vous inspirer.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc j'avais déjà lu un autre de ses bouquins et j'y avais trouvé vraiment beaucoup de pistes de réflexion dans mon travail. Donc quand j'ai vu qu'il avait édité un nouveau bouquin, je me suis dit, il faut que je le lise.
Coince pour vous, Laurence ? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Est-ce que vous faites un petit travail personnel aussi en disant, face à ce genre de comportement, j'ai des difficultés à réagir ? Est-ce qu'il y a quelque
Évidemment, quand on travaille avec des enfants qui souffrent de troubles du comportement et ou de la personnalité, on se retrouve souvent dans des situations problématiques. On n'a pas toujours je veux dire, tous les outils pour intervenir de manière bienveillante, etc. Donc, c'est dans ce sens que, voilà, je me suis orientée vers ce livre parce qu'on y trouve vraiment de réelles pistes d'intervention et voilà.
Il y a une chose aussi dans l'intervention que j'aimerais peut-être vous soumettre, et Paul aussi, hein, parce que je lui ai demandé son avis, parce que j'avais relevé ça aussi. Aborder chaque nouvelle journée avec un regard neuf, toujours. En tant que parent, je pense qu'on se doit d'entendre ça, de manière bienveillante, même avec ce qui s'est passé la veille. C'est pas toujours facile ça, Lorraine.
Non, non, évidemment, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on est là pour ça. On est là pour chaque jour essayer de faire grandir ces enfants qui sont en souffrance. Et donc, il faut pouvoir mettre notre vécu de côté et se concentrer réellement sur les enfants.
Est-ce que vous avez aussi ce sentiment, cette impression que l'enfant n'a pas d'estime de lui, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, que l'enfant n'est pas habitué à ce qu'on le complimente plus qu'on ne le réprimande, parce qu'en fait, c'est ça. Dans notre société, on met l'accent sur ce qui ne va pas et jamais sur ce qui va. Hein. Dans l'info, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est notre culture qui est comme ça. Comment, enfin, voilà, est-ce que quand on sait ça, est-ce que vous arrivez à faire un compliment, à renforcer positivement un comportement, Laurent?
Oui, évidemment, on sait bien que c'est super important pour que l'enfant, justement, améliore son estime de lui. Oui, on commence la journée par se dire bonjour, par montrer qu'on a remarqué la présence de l'enfant. On essaye vraiment de faire au mieux pour qu'il se sente bien, pour lui dire « je te comprends, comment vas-tu aujourd'hui ?» Donc, on met vraiment l'accent sur toutes ces petites choses, finalement, qui aident l'enfant à se sentir bien, à se sentir écouté.
Eh bien, justement, Paul, je vous l'ai dit hors antenne, j'adore quand j'ai lu ce que vous faites pour commencer la journée. Quand le car scolaire arrive devant votre école, Paul, vous mettez le poing en l'air. Bon, aujourd'hui, le coude avec le Covid, mais vous mettez le poing en l'air et l'enfant doit checker, voilà,
on check.
Et tous vous voyez à la façon dont l'enfant vient sur votre poing, son humeur, sa météo intérieure.
L'obligation de se dire bonjour, c'est déjà le respect.
Ouais,
Et c'est un peu d'éducation. Même si parfois d'autres ne le font pas. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important. Et indépendamment du côté éducation, je compare toujours le bonjour européen à un bonjour africain. J'adore l'Afrique, j'y vais régulièrement. Et j'adore la façon dont les Africains disent bonjour, où ils ont une façon de se dire bonjour qui même parfois nous pourrait nous déranger. Hein. Ils se serrent la main et vous avez la main gauche. Donc si on serre la main droite et vous avez la main gauche qui vient sur le bras pour le tenir comme ça. Et c'est en fait le bonjour qui est ce bonjour africain que moi je perçois comme cela naturellement. C'est un bonjour intéressé. Je m'intéresse à la personne. Nous un bonjour c'est bonjour parce qu'on doit se dire bonjour. Le bonjour africain ce serait plus comment ça va, la famille, les enfants, le jardin. J'ai même une fois une africaine en formation qui m'a dit monsieur vous avez oublié les animaux. Donc on demande même les nouvelles des animaux, le chat, le chien, le poisson rouge s'il y en a un ou le caméléon si on est au fin fond de l'Afrique. Mais c'est cette image je l'aime.
C'est l'environnement qui fait partie de,
voilà, et
de la
et
personne.
C'est vraiment s'intéresser à la personne. Donc rien que le fait de faire ce check, la façon, donc on disait très bien, la façon dont ils vont frapper mon poing ou refuser de le frapper aussi, parce que je suis aussi dans l'acceptation du refus, puisque voilà, le signe il est clair. L'enfant sort du car, il s'est peut-être passé quelque chose dans le car qui ne va pas bien. Je suis à son écoute par le check, j'ai senti qu'il ne va pas bien. Je lui propose, au lieu tout le rang jusqu'à l'école, au lieu de le gérer en lui disant « arrête », mais non, je lui prends la main. Je lui prends la main, il vient avec moi, et nombre d'enfants maintenant qu'on doit limiter, parce qu'ils veulent tous nous prendre la main. Donc je n'ai que deux mains. Je suis avec l'éducatrice qui a deux mains aussi, elle en prend aussi régulièrement. Et sur tout le chemin, j'apaise l'arrivée à l'école, et même s'il est dans une opposition totale où il ne veut rien dire, il a le message qu'en fait je suis là pour... Voilà. Et si je sais en plus que ça ne va pas bien, je remets le message à l'enseignante qui va accueillir l'enfant. Et l'enseignante, c'est tout à son honneur, et ils le font régulièrement, de s'intéresser d'une façon plus particulière en classe pour essayer d'apaiser l'enfant. Et si on agit de la sorte et qu'on n'a pas cette information, si on n'avait pas cette information-là, quand il arrive en classe, à la sortie du car, c'est la crise. Il arrive à l'école, c'est la crise. il rentre en classe, c'est le bordel, il s'oppose à travailler, il retourne sa chaise. Donc il y a moyen, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je trouve qu'il y a, moi je pense vraiment beaucoup que l'anticipation dans une gestion de crise est fondamentale. On sait que Paul, moi-même, l'enfant difficile dans toutes mes formations, va me rendre la vie impossible, il le fait tous les jours. Posons-nous la question, au lieu de pour sortir d'un rôle que j'appelle un rôle de gendarme, de cadre au quotidien, on doit toujours dire à l'enfant, arrête,
tu ne peux pas,
oui. C'est fatigant, ce rôle-là, il est fatigant. Et quand je donne des formations, j'amène les personnes justement à réfléchir et à se dire, tiens, vous savez que Paul va vous bouffer la journée, puisqu'il vous la bouffe depuis un an, deux ans, six mois, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place avec outils, sans outils, ensemble, en réflexion d'équipe, pour que Paul ne soit plus en crise? Et toute l'énergie qu'on va pouvoir mettre dans l'anticipation, c'est de l'énergie qu'on va épargner dans l'intervention. Mmh. Et c'est dans l'intervention que nous sommes épuisés et fatigués.
Lorraine, je pense que là-dessus, on ne sait pas ajouter grand-chose. Hein,
ah, écoutez, ça me parle, c'est vraiment ça, en fait. Mmh. Mais dès le début, pouvoir capter, sentir l'humeur de l'enfant, prendre la température, voilà, de manière à anticiper, c'est vraiment ça. Donc moi, c'est vrai, tous les matins, je me poste à l'entrée de la classe, les enfants choisissent une manière de me dire bonjour, et je vois tout de suite s'ils vont bien ou pas, mmh. Et donc ça me permet voilà, de prévoir ma journée, de changer éventuellement l'une ou l'autre activité en fonction d'un souci ou d'un conflit, et voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est l'anticipation qui est vraiment très importante.
Bon, on va continuer alors, hein, à essayer de faire changer les choses, voilà. Et les paradigmes de notre société, notre culture ici en Europe. Merci en tout cas votre intervention, Lorraine.
C'est moi qui vous remercie, merci à tous.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Prendre la vie du bon côté, c'est mieux comprendre les comportements difficiles et y faire face avec bienveillance.
Quand les comportements difficiles me déstabilisent et les troubles de l'attachement. Justement, nous allons venir, Paul, sur cette deuxième partie qui est très importante aussi parce que je pense en effet qu'il fallait évoquer ce trouble de l'attachement. Je vais peut-être vous demander à vous une définition, Paul, avant de donner la parole à Bernadette qui représente l'association Pétale et qui sait évidemment de quoi il s'agit. Mais pourquoi peut-être avoir mis ce trouble-là dans votre livre ?
Parce que j'ai observé que nombre d'enfants et de plus en plus ont des troubles de l'attachement, quels qu'ils soient, mais de plus en plus marqués. Et nous avons été démunis maintes et maintes fois face à leurs réactions. Mmh. Et on ne savait pas quoi faire. Alors ma définition toute simple du trouble de l'attachement est un enfant, dans sa petite enfance, a vécu une rupture affective avec sa personne référente, en général, la maman. Mmh, 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 mmh. Il veut, par après, comme il a souffert inconsciemment de cette rupture, de cette fracture, de cette carence, il ne veut plus souffrir à nouveau et de façon inconsciente, il va tout mettre en place pour essayer de rester maître de la relation, pour ne plus être abandonné.
Et c'est là qu'intervient Bernadette, de l'association Pétale que nous avons en ligne. Bernadette Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Présidente de cette association Pétale pour parents d'enfants présentant des troubles de l'attachement,
c'est ça, oui.
Ligue d'entraide et de soutien. Alors justement, pour faire suite à ce que Paul vient de dire, ce ne sont pas que des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents biologiques ou qui ont été en famille, en placement, en famille d'accueil. Ça peut être aussi ce trouble lié à des enfants biologiques, hein, une cassure,
oui,
une rupture avec la maman. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être un déni de grossesse, ça peut être une grossesse difficile, ça peut être un deuil. Il y a plein de raisons qui font que l'enfant souffre d'un trouble.
Oui, tout à fait. Une rupture qui s'est produite et que parfois les adultes et les parents, même extrêmement bienveillants, n'ont pas pu percevoir. Il y a des situations du style comme la plateforme annonce handicap, tout d'un coup les parents apprennent que leur enfant est gravement handicapé, ils ne le savaient pas, ils ne s'y attendaient pas, et il y a un moment de déstabilisation où l'enfant se sent pris dans une sorte de vide. Donc il répond, justement comme Paul l'a dit, il répond à des situations complexes par la peur et la perte de confiance. Et c'est surtout ça. Donc, il aura toujours peur, même s'il joue les matamores, hein, ça n'a rien à voir, et il perd la confiance dans les adultes, donc il va essayer de s'en protéger. Et ce qu'on appelle les troubles, c'est toutes ces stratégies de protection, que si on ne les décode pas, on va y réagir de toute façon, de mauvaise façon. C'est pour ça que le travail de Paul est fort intéressant pour arriver à décoder ce que l'enfant veut dire et comment nous le recevons et comment nous pouvons y répondre.
Mmh. Que faites-vous au sein de votre association ? Reprécisez-nous un peu votre mission.
Oui. Nous nous appelons maintenant Pétale Belgique parce qu'il y en a d'autres au Québec, en Espagne. Nous accueillons les parents, pas les enfants. Nous ne sommes pas thérapeutes. Nous sommes tous au départ parents d'enfants qui portent des troubles de l'attachement. Mmh, mmh. Et nous avons étudié ça à fond. Et je veux dire, la théorie face à la pratique de toutes les situations familiales et de celles que nous avons vécues, que nous continuons à vivre nous-mêmes. Voilà. Donc, on ne peut jamais se dire qu'on a tout compris. Parce que nos enfants nous expliquent toujours, même quand ils sont adultes, que c'est encore plus compliqué que ça. Et nous travaillons donc avec les parents, avec les familles qui sont en difficulté, par des groupes de parole, par donner des informations, des renseignements. Je donne aussi des interventions parfois dans des institutions, etc., qui le demandent. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de professionnels qui commencent à le prendre en charge d'une façon sérieuse,
oui, oui.
Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans, ni même il y a 10 ans. Donc maintenant, même s'ils sont encore beaucoup trop peu nombreux, nous avons quelque espoir de ne plus être les seuls à en parler et à l'expliquer, et d'avoir vraiment pour les familles une aide sérieuse. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais ça commence tout doucement à être pris au sérieux dans les milieux thérapeutiques. Voilà.
Dans votre expertise d'enseignant et d'accompagnant, Paul, de tous ces enfants au comportement dit difficile, vous voyez tout de suite quand il s'agit d'un trouble de l'attachement ? Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui souffre, un enfant qui souffre de ce trouble-là ?
Ce qui ressort très fort dans une école où il y a un cadre et on essaie de renforcer le sentiment de sécurité et on pourrait être amené à certains moments à sanctionner un enfant par rapport à un comportement, si l'enfant est dans le trouble de l'attachement, la sanction n'a aucun sens pour lui. Il peut recommencer son comportement après vous avoir dit « oui, j'ai compris, oui, je ne le ferai plus », mais ça peut être dans la seconde, ça peut être dans les minutes. Le fait de sanctionner, de donner une punition entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, à un enfant, est aussi une façon pour l'adulte de prendre la maîtrise de la relation. Il refusera cette maîtrise de la relation et il essaiera après, inconsciemment encore une fois, de recommencer. Donc on a l'impression qu'il n'imprime rien. Mmh. On a l'impression que notre énergie est vaine à chaque fois et l'importance de mon partage d'expérience ici, et je remercie vivement en direct Bernadette de tout ce qu'elle a pu faire au niveau de son apport théorique et de toute son expertise par rapport aux exemples de terrain, qui, je crois, sont parlants pour tout un commun, c'est de vraiment... il faut accepter d'être mis à zéro plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure. Et si on n'a pas un tant soit peu, un bagage de compréhension sur ce qui se passe, sur pourquoi, sur quel est son vécu, quelle est son histoire qui pourrait expliquer que on devient soit maltraitant, on baisse pavillon, mais non. Ou même pire, on envisage une orientation en service K, en psychiatrie. Mmh. Moi, c'est des choses que j'ai vécues ou pour lesquelles j'étais assez révolté. Mais ces enfants-là m'ont grandi, mais m'ont aussi fait vivre des moments terribles.
Mmh. Eh bien voilà Bernadette, hein, votre place encore une fois, comme vous dites, à l'association Pétale Belgique, pour bien différencier ce qui se passe chez nous, est importante. Et aujourd'hui, c'est un trouble en effet qu'on commence, enfin, je pense, qui est pris beaucoup plus sérieusement et au titre de trouble de l'attachement, plutôt qu'en effet noyé dans un flot de comportements difficiles. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des spécialisations aussi, des personnes qui aujourd'hui accompagnent des enfants comme ça, et comme vous dites, les parents, puisque vous, on a bien compris que c'était les parents que vous accompagniez.
Je voulais te renchérir sur ce que disait Paul. Hein. Oui, effectivement, ces enfants n'ont pas du tout le même type de logique que nous. Donc, ils ne font pas un lien entre leur acte et la conséquence, donc soit une punition, soit la réaction de l'adulte. quand on parle de trouble de l'attachement, on parle aussi du manque de lien, mais du manque de lien dans tous les domaines pour l'enfant. Il ne relie pas un moment à un autre. Donc, il ne peut pas accepter même une récompense comme la récompense de ce qu'il vient de faire. Ça n'a pas de lien pour lui, pas plus que la punition. Et ça nous met en difficulté permanente de voir dans son comportement, il exprime quoi. Et nous, plutôt que transformer les comportements où, Paul le dit très bien, on s'use sans aucun résultat, ce qu'il faut, c'est trouver comment construire cette confiance dans l'adulte ou dans les personnes adultes de référence pour l'enfant, comment construire cette confiance qui lui apportera ce qu'on appelle la sécurité interne. Et alors, à ce moment-là, on pourra travailler les comportements. Mais avant, c'est impensable. Pour l'enfant, c'est nous qui sommes complètement à côté de la plaque et qui ne comprenons rien, évidemment.
J'imagine. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci Bernadette Nicolas.
Merci beaucoup.
Bernadette Nicolas, donc, qui signe la préface de la partie 2, mais qui est en effet qui représente via son association tout ce qu'il y a lieu de savoir sur ce fameux trouble de l'attachement dont on parle de plus en plus.
Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.
Que nous soyons thérapeutes, parents, enseignants, éducateurs, nous devons tous gérer des situations difficiles. Paul Leurquin espère, et on en arrive à la conclusion un peu de ce podcast, espère que son livre vous permettra de mieux comprendre ces enfants qui nous déstabilisent et surtout de mieux adapter nos réactions face à leur comportement, que cet ouvrage, dit-il, soit pour vous une ressource et que surtout vous puissiez devenir à votre tour une personne référente pour ces jeunes qui expriment des comportements difficile. Alors c'est vrai que Paul, il y a toutes vos observations de terrain, il y a cette école aussi que vous dirigez aujourd'hui après avoir été enseignant du côté de Philippeville. Dans votre école, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, vous le dites aussi, vous vous posez la question de savoir quels pourraient être les freins à l'efficience de vos interventions, vous essayez de savoir aussi face aux familles en difficulté comment se comporte l'enfant à la maison, donc un enfant qui arrive chez vous, ce que les parents observent aussi chez leur enfant. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses que les parents peuvent entendre, des choses à ne pas dire. Et puis, il n'y a pas que ce livre. Paul, vous avez sorti aussi, et ce sera le début d'une série, c'est un livre d'histoire qui est un outil pédagogique de gestion de crise qui peut être utilisé par toute personne qui gère un groupe d'enfants qui présente des comportements difficiles. Ça s'intitule « La chaise magique ». Et c'est une histoire, encore une fois, à raconter peut-être aux enfants, ou en tout cas à s'en inspirer pour essayer de mieux comprendre, mais surtout de mieux réagir face à un comportement difficile.
Oui, en rendant les enfants acteurs d'un projet, j'ai eu l'idée d'inventer des histoires. Jonas et Victor sont deux enfants avec un qui est en colère. Ils vont dans le fond d'un jardin, il y a une chaise, on s'assied dessus, on s'apaise, on se transforme en animal, voilà. Donner l'envie aux enfants quand l'enseignant, les parents, les éducateurs raconteraient cette histoire de customiser une chaise, une vieille chaise, de se l'approprier, de la placer dans un endroit judicieux dans la classe. Donc j'explique toutes les démarches. Donc il y a l'histoire, le livre est illustré par Géraldine Nemery, les dessins sont splendides, enfin du moins je les trouve splendides. Il y aura d'autres livres dans la collection sur la notion de territoire, sur le sentiment de sécurité, sur l'estime de soi. C'est le premier de la collection que je fais en auto-édition, donc il faut passer par moi si on veut avoir ce livre. Et il sort ici dans 10 jours, il est parti à l'impression. Et cet outil est un outil qui peut aider certaines classes, mais surtout sortir de cet esprit de chaise. Parce que moi, quand je suis en formation, je dis « Oh oui, la chaise calmante, la chaise à réfléchir. » Et je dis « Oui, mais c'est quoi votre chaise à réfléchir ?»
C'est une chaise au fond de la classe.
Oui, mais bon, ça n'a aucun sens pour l'enfant. L'enfant doit se l'approprier.
La customiser.
Donc, j'ai expliqué comment je la customise. Je montre la chaise qu'on a mis en place, comment on peut l'utiliser. Ça évite aussi peut-être les mises hors de la classe trop rapides. Alors, il est clair que les enfants, au départ, veulent courir sur cette chaise parce que c'est un nouveau jeu. Mais ça s'atténue assez vite. Et sous l'ordre, sur la direction de l'enseignant, il peut aller s'y calmer avec un petit coussin, avec sa couverture, si c'est encore en maternelle, avec un casque sur les oreilles, comme j'ai ici maintenant, pour pouvoir s'apaiser à certains moments si l'enfant a besoin de sortir de sa colère, et d'autres outils qui sont partagés aussi. Donc il y a un côté histoire, ludique, mise en place d'un projet et des conseils pédagogiques à la suite de ce
livre. La chaise qui calme, la chaise magique, une histoire contée qui permet en effet d'installer dans notre famille aussi, hein, dans nos maisons aussi, au sein de n'importe quelle structure, un projet qui rendra les enfants acteurs du changement de leur comportement. Paul Lurquin, éducateur, instituteur primeur, directeur d'école spécialisée, accueillant des enfants présentant des troubles du comportement et ou de la personnalité. Vous êtes aussi conférencier, formateur, accompagnateur familial et parental. Merci beaucoup, Paul, pour la présentation de ces deux livres. Alors, hein.
Merci, ouais. Sylvie.
À bientôt.
Plaisir.
Et bravo
Merci
pour ce
beaucoup.
Que vous faites.
Merci.
Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.